Sur ce, nous restons donc à Béni pour démarrer la séance des questions et réponses avec deux questions à Béni. Nous vous invitons donc à éteindre vos téléphones portables ou à les mettre sous mode silencieux. Béni, vous avez le micro pour deux questions, très rapidement.
Merci Félix, merci pour l'honneur que vous nous faites à Béni de démarrer cette série des questions-réponses par Béni. Sans autre forme de procès, nous allons passer la parole au journaliste à qui veut la prendre. Première question, vous monsieur, vous présentez.
Oui, c'est monsieur Nikes Kibebeloka, directeur du journal Les Coulisses. Ma question s'adresse au général Jean Bayot. Depuis 2005, ça fait 10 ans, il y a eu 3 opérations militaires contre les ADF et on a l'impression de faire du surplace. Peut-on conclure à une mauvaise lecture de l'ennemi ou à une mauvaise planification des stratégies militaires face à une guerre asymétrique? Merci.
La deuxième question en même temps, je crois. Hein. La deuxième question, s'il vous plaît.
Merci. Je suis Sivulamung Jackson de la radio moto Oucha. Ma question s'adresse au commandant des forces de la MONUSCO. Les forces de la MONUSCO sont intervenues dans les combats du match dernier à Rinketi. Est-ce que vous pouvez rassurer la population de cette partie du territoire que cette fois-ci, des opérations conjointes vont se poursuivre jusqu'à anéantir l'ennemi sans attendre que l'ennemi attaque les premiers? Merci.
Bien, merci beaucoup pour vos questions. Alors, je pense que la première question, effectivement, parle de la répétition et de la durée, effectivement, du mal auxquelles les populations font face et de l'adéquation de la réponse effectivement à ce problème. Donc nous sommes parfaitement conscients, même si pour ma part je ne suis ici que depuis un peu plus de 2 ans dans votre pays, qu'il y a effectivement un phénomène de répétition. Je pense que vous avez aussi constaté qu'il y a un phénomène aussi de mutation de ce groupe, qui adapte en permanence sa stratégie au type d'opérations qui sont conduites. Il opère, et nous l'avons encore constaté dimanche, pour faire la confusion. Il opère complètement en uniforme FRDC, certains complètement civils. Il peut se mêler à la population. Il peut éventuellement s'imbriquer dans des opérations conduites par les forces de votre pays. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. Il opère à la fois contre les populations ou dans une zone plus forestière dont il maîtrise parfaitement tous les aspects. Alors, en réponse à votre question, je vais peut-être répéter ce que j'ai eu l'occasion de dire à d'autres occasions, mais effectivement, il faut non pas subir la façon dont cet adversaire s'adapte à son environnement et à la façon dont les gens combattent, mais il faut vraiment mettre des moyens adaptés pour tenir compte effectivement du caractère asymétrique de son mode d'opération. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller davantage en profondeur de la compréhension de pourquoi est-ce qu'il opère aussi, peut-être de manière qu'on peut qualifier réellement de terroriste. Moi, je pense que quand on tue, comme ça a été le cas dimanche dernier, un enfant de 2 ans, quand on achève des blessés dans un hôpital, quand on brûle un hôpital, c'est quoi? C'est du terrorisme. Il n'y a pas d'autre mot, que ça. D'autre part, les gens qui ont été mis hors de combat, dont nous avons vu, effectivement, constaté, effectivement, qui ils sont. Je pense que ces gens-là, étant morts, ils ne parlent pas, ce ne sont pas des Congolais. Enfin, certains ne sont pas des Congolais. Il y a des femmes combattantes. Il y a des femmes combattantes qui portent le voile. Porter le voile n'est pas du tout un mal. Mais cette façon de combattre, on va dire, je pense qu'elle n'est pas propre, effectivement, à ce pays. Il y a un renforcement du caractère agressif, que je qualifierais facilement de terroriste, qui se décrit, et il y a certainement des renforcements qui s'opèrent, effectivement, auxquels on doit faire tout à fait face. Alors, sur la stratégie, je ne peux pas rentrer dans les détails de la réponse à la stratégie, mais je pense que vous avez tout à fait raison de dire que la stratégie doit être adéquate. La deuxième chose, vous avez parlé des 10 ans, mais je pense que c'est même plus que ça. Il y a des opérations dans plus que 10 ans. Il faut vraiment que cette réponse à ce mal aille jusqu'à son bout. Il n'y a pas d'autre choix. Sinon, vous allez laisser des populations qui vivent dans des zones prospères toujours sous la menace de la résurgence de ces choses-là. Les erreurs qui ont certainement été faites dans le passé, et ce n'est pas moi qui vais juger, c'est qu'on n'est pas allé au bout. On n'est pas allé dans les racines du problème. Dernier point sur votre question, c'est que malheureusement, la stratégie n'est pas que militaire. Vous avez parlé de stratégie militaire. Il est très important que l'action militaire opérée par les FRDC avec l'appui de la MONUSCO s'inscrive dans un cadre plus large qui est aussi politique, qui est aussi économique, probablement social et international. Bon, je prétends pas donner ici toutes les facettes, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donnons un cadre qui permettra à l'action militaire et au sacrifice des Congolais et des gens des casques bleus qui meurent effectivement pour ça, de donner plus de sens et de cohésion. La deuxième question, est-ce que vous pouvez juste la résumer, s'il vous plaît, votre deuxième question?
Voilà, donc j'ai demandé si, cette fois-ci, les forces de la MONUSCO vont intensifier les opérations conjointes bon. Qu'ils ont menées dimanche dernier.
Alors, voilà. Alors je veux non seulement vous rassurer, mais vous dire, comme je l'ai aussi dit devant le représentant du gouvernement, que nous sommes ici déterminés à aller dans le sens de ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout. Ne nous méprenons pas, nous n'allons pas régler le problème en une journée. Cette action-là, elle demande de la détermination, elle demande de la conviction, elle demande des sacrifices, elle demande aussi les efforts de tout un chacun. Elle demande, je pense, aussi plus de cohésion. Plus de cohésion. Il faut qu'on travaille vraiment ensemble. Et je pense que c'est le message que j'ai aussi entendu communiqué par le représentant du gouvernement aux populations d'Irengeti. Hein, je pense que c'est très important que tous les acteurs soient engagés vers le même but. Je vous remercie.
Oui, merci. Donc, nous quittons Béni pour venir à Goma, tout en restant dans la province du Nord Kivu, avant de revenir à Kinshasa. Goma, vous avez le micro pour deux questions, très rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps.
Oui, merci, Denise. Une dame, mais peut-être préciser que nous avons la présence à Goma du directeur des adjoints du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Abdulaziz Choy, donc, qui participe à partir de Goma à cette conférence. Madame, pour la première question.
Merci. Moi, c'est Brigitte Makuta, correspondante de la RTVS 1 Kinshasa. Ma question s'adresse à Madame Geneviève. Depuis que les affres de la guerre ont eu domicile à la ville et territoire de Béni, vous ne nous parlez que des opérations militaires. Vous ne nous parlez jamais de l'assistance humanitaire à se déplacer de ces affres. Que font concrètement les agences humanitaires de l'ONU quant à ces? Merci.
Oui, Geneviève, la parole est à vous.
Bon, quelqu'un veut prendre la parole parmi. Je vous rappelle que assistent aussi à la conférence les représentants des agences du système des Nations Unies. Et je pense que Sylvestre de Ocha sera plus expérimenté que moi pour répondre à cette question. Merci Sylvestre.
Oui, merci pour la question. Vous êtes à Goma, vous êtes journaliste et vous devez savoir. Ben, je ne sais pas si
ça passe. Ça... Oui, ben, maintenant, je crois que ça passe. Il y a présent à Goma plusieurs partenaires qui interviennent dans divers domaines d'assistance. Peut-être que nous ne le disons pas assez à ce micro, mais chaque semaine, il y a des projets qui sont en cours en termes d'assistance en vivres, d'assistance en abri, d'assistance en soins de santé aux diverses personnes déplacées internes dans cette province. Si vous allez sur notre site, le site humanitarianresponse.info, vous verrez chaque semaine des rapports qui sont publiés et qui font état de la réponse humanitaire que la communauté du Nord Kivu, la communauté humanitaire de la République démocratique du Congo, apporte chaque jour aux personnes déplacées dans cette partie du pays. Et peut-être que vous de la presse, vous êtes peut-être aussi un peu plus intéressé aux questions politico-sécuritaires, mais l'assistance humanitaire est en cours dans la province du Nord Kivu actuellement.
Merci à Sylvestre pour ces éclairages. Nous restons toujours à Goma pour prendre une deuxième question avant de venir à Kinshasa. Goma, une deuxième question très rapidement.
Oui, madame Bosch.
Merci beaucoup pour la parole. Oui, c'est Hortense Tabaku, Digital Congo. Ma question s'adresse au porte-parole du colonel Bass. Le porte-parole de Ban Ki-moon a déclaré depuis New York sur AFP qu'il faut des actions rapides afin de traduire en justice ceux qui ont perpétré le massacre de Béni. Je voulais savoir, est-ce qu'il, quand il parle de réaction ou action rapide, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que nous savons qu'on n'arrive pas à maîtriser ces ZADF Nalou. Comment on va traduire en justice des personnes qu'on ne sait même pas anéantir ou même ceux qu'on ne sait pas tomber? Entre-temps, le général Bayo, hier, je crois, vous avez rencontré le ministre Banamouer à Béni. Est-ce que lui-même parle des gens d'action traduits en justice des ADF Nalou? Je vous remercie.
Merci pour votre question. Je ne sais pas si je laisse la priorité au général Bayo. Mon général, pour la première partie.
Non, écoutez, je ne vais pas répondre au nom du ministre. Hein. Je pense qu'il faut laisser les prérogatives de la communication congolaise aux autorités. La seule chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il est extrêmement important de pouvoir faciliter le travail de la justice par rapport à la réalité de ces crimes. Et personnellement, j'ai donné des instructions pour que nos forces permettent effectivement que ces enquêtes soient menées le plus tôt possible. Il est très important que toute la vérité soit faite et la compréhension soit apportée sur la nature de ces crimes pour permettre à la justice effectivement d'opérer. Il y a des responsables, il ne peut pas y avoir d'impunité par rapport à la nature de ces crimes. J'étais malheureusement en octobre de l'année dernière à Eringeti lorsqu'il y a eu le massacre où il y a eu 24 morts. J'ai vu tous ces enfants morts et je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qui se passe au niveau du suivi de la justice. Cette fois-ci, il y a encore répétition, peut-être sous une autre forme, à nouveau de crimes d'innocents dans des hôpitaux et d'enfants tués. Je pense qu'il est très important que nous apportions et nous garantissons effectivement l'accès de la justice pour enquêter contre ces crimes.
Merci beaucoup, mon général. Donc, je prends la deuxième partie de la question qui est relative aux déclarations du porte-parole de M. Ban Ki-moon. Je pense qu'il faudra d'abord recentrer le débat lorsque M. Dujarric fait cette déclaration. Le général l'a tantôt aussi mentionné dans ses propos. Ça veut dire que la violence et la cruauté avec laquelle ces crimes ont été perpétrés et encore dans des structures hospitalières, je pense que ceci interpelle tout un chacun et c'est dans ce cadre-là que le porte-parole de M. Ban Ki-moon inscrit sa déclaration. Il faut qu'il y ait une combinaison d'actions, une combinaison d'efforts. C'est en cela encore qu'il faut convoquer ici le pacte de confiance, la triptyque qui veut que ce soit la MONUSCO, les forces congolaises et les populations civiles fédèrent leurs efforts pour arriver à bout de ce groupe criminel rebelle ougandais. Le général l'a dit, c'est un groupe qui nécessite d'ailleurs des actions vigoureuses, des actions engagées, des actions déterminées pour mettre un terme à ces activités. Maintenant, je pense que M. Abdulaziz Choy, qui est l'adjoint au directeur du Bureau conjoint des Nations Unies, nous en dira un peu plus. Toujours est-il que les équipes d'investigation sont sur le terrain et dont le travail est facilité par les activités menées par la force sur le terrain. Et je pense que c'est justement ce concours d'action, c'est ce concours d'engagement de toutes les parties qui fait dire à M. Dujarric qu'il faudra que très rapidement les actions soient menées pour arrêter et traduire ces gens devant la justice, au besoin les neutraliser de manière définitive. Je pense que c'est un groupe qu'il faut détruire, les mots ne sont pas assez forts face justement à cette cruauté que nous avons observée. Merci donc, nous revenons ici à Kinshasa après Goma pour prendre deux questions, une question sur la droite, donner le micro. On vous entend pas. Allez-y, ouvrez le micro.
Ok, merci. C'est Théodore Ngandou au compte de Télé7. La situation qui prévaut actuellement à Béni nous inquiète de plus en plus. Monsieur le général Jean Bayo venait à peine de dire qu'il faut cette fois-ci la combinaison des actions politiques aux actions militaires. Alors je me dis, action politique, est-ce pour aller négocier avec des ADF considérés aujourd'hui comme une menace permanente pour notre population, parce qu'on ne peut pas combiner les actions politiques avec un groupe armé qui est dangereux aujourd'hui avec tous les massacres qu'ils ont commis. Ils sont considérés, ils ont commis, ce sont des actes qu'on appelle aujourd'hui crimes contre l'humanité. Alors, au lieu de porter plainte directement à la CPI, mais le général Bayo parle des actions politiques. Est-ce, je vais savoir clairement, est-ce pour négocier avec les ADF ou bien intensifier les actions militaires contre ces groupes armés?
Oui, merci. Sans répondre à la place du général Bayou qui nous suit en direct, je lui passerai la question. Je voudrais juste dire qu'il faut comprendre la déclaration du général Bayou dans une approche tout à fait holistique. Ça veut dire que le général a voulu tout simplement dire que la solution n'est pas que militaire. Et en plus, votre approche est assez restrictive lorsque vous pensez que l'action politique ne peut être que réduite à des négociations avec ce groupe. Non, je pense que le général qui a béni trouvera les mots beaucoup plus appropriés pour décrire ce qu'il a voulu dire. Mon général, vous avez la parole.
Merci. Bon, je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler à nos auditeurs que ADF a aussi une particularité, c'est qu'il ne communique pas et il ne négocie pas. Nous n'avons aucun moyen, enfin quand je dis nous, c'est que, à ma connaissance, personne n'a des moyens de discuter avec eux. C'est une spécificité, c'est pas le cas de Boko Haram, Al-Shabaab, ACMI, etc. Tous ces gens-là ont des sites internet, c'est pas le cas d'ADF. Donc c'est une particularité, je ne voulais absolument pas dire qu'il fallait faire une négociation avec ce groupe. Quand je parle de politique, et je suis désolé si je me suis mal exprimé, je pense que c'est simplement de montrer la priorité, d'avoir un engagement de tous les acteurs politiques, c'est ça la question. Et je me permettrais même de dire effectivement que ce sont peut-être aussi des acteurs communautaires, il faut aller dans tous les niveaux de la société. Et peut-être des sociétés, parce que Beni est proche d'une frontière avec l'Ouganda. Les populations sont, on va dire, relativement communes, hein, de part et d'autre. Il y a des actions positives qui peuvent être aussi peut-être déployées de ce point de vue. Je vous remercie.
Oui, merci mon général. Donc nous prenons une deuxième question. Oui, à gauche, donnez le micro à la dame, s'il vous plaît.
Merci pour la parole, c'est un foyer à toi.
Non, vous donnez le micro, s'il vous plaît, à la dame. Soyez un peu plus courtois, quand même.
Marthe Boussouandolé pour l'agence France Presse. Ma question s'adresse au général Jean Bayo. Général, vous venez de parler, dans votre propos, vous disiez que vous parliez de la présence des combattants étrangers. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a pu identifier l'origine de ces combattants étrangers? Est-ce que cela renforce-t-il les soupçons de collusion djihadiste dans les combats que vous menez contre les ADF? Et est-ce qu'on peut connaître la situation sur les opérations aujourd'hui par rapport à la contre-attaque qui a été lancée depuis hier? Merci.
Oui, Beni, mon général, vous avez la parole.
Bon, merci. Bon, en fait, je ne voudrais pas effectivement que mes propos soient interprétés d'une manière qui vont au-delà effectivement de ce que nous avons pu vérifier. Bon, je pense que c'est d'abord d'ailleurs aux autorités de ce pays qui ont le contrôle d'un certain nombre de services, hein, qui travaillent sur ces questions qui sont assez complexes, de devoir communiquer ou pas. L'observation que je fais en tant que, malgré tout, que responsable d'une force engagée effectivement dans le combat contre ce groupe, c'est qu'il est de nature très différente des autres. Et que très clairement, même si c'est vrai aussi, et c'est connu qu'il y a des combattants congolais, il y a même des combattants de la région qui font partie de ce groupe, sa nature est très spécifique. Et il est clair qu'il y a non seulement des Ougandais, mais des combattants d'autres pays. Le point sur lequel je veux faire attention, parce que la dernière chose que l'on souhaite pour la République démocratique du Congo, c'est de voir naître dans ce pays ce que l'on voit malheureusement se développer partout ailleurs en Afrique. Donc c'est d'être très vigilant pour que, effectivement, ce genre de développement ne se passe pas. C'est mon sentiment que le Congo, bien sûr, n'est pas du tout un terreau qui pourrait être propice à l'extrémisme ou à la pratique effectivement excessive de croyances qui voilà. Ça je pense que ce n'est pas ça. Mais il faut être vigilant de manière à ce que ce groupe ne puisse pas s'insérer effectivement dans la région encore plus longtemps.
Merci. Nous restons donc à Béni pour prendre deux questions. Béni, vous avez le micro pour deux questions très rapidement. Nous arrivons au terme de cette conférence. Oui, mon général, allez-y.
Oui, il y avait une question sur les opérations, parce que ça intéresse effectivement les gens. Malheureusement, je ne vais pas communiquer ni sur les opérations réellement en cours, ni sur les opérations à venir. Les seules choses que je puisse dire de manière précise, c'est un, la confirmation que nous avons engagée hier à plusieurs reprises, le groupe d'ADF qui avait été l'acteur effectivement de l'attaque sur Eringeti. Bon. La deuxième chose, c'est que nos opérations se font en coordination avec les FRDC. La troisième, c'est que ces opérations vont durer. On ne peut pas espérer avoir des résultats très rapides. Nous savons que nous avons des résultats, mais surtout, nous savons aussi que le combat va être difficile, va devoir exiger des sacrifices, et comme je l'ai déjà dit, demande encore plus de cohésion entre les différents acteurs engagés. Merci.
Oui, merci. Donc, nous restons toujours à Goma pour prendre à Béni pour prendre deux questions très rapidement. Nous allons bientôt rendre l'antenne à Radio Okapi, mais nous poursuivrons cet échange qui est très intéressant, encore pour une dizaine de minutes au-delà de l'heure qui est fixée. Oui, Béni, deux questions rapidement.
Merci Félix, vous, monsieur. Vous
avez... Oui, je suis Mustapha Moulonda, journaliste et scientifique de l'université officielle des Semouliki. La coopération FARDC-FIB semble être effective. Alors, peut-on espérer à un délai à court terme ou à long terme pour démanteler complètement les bastions rebelles?
La deuxième question, qui veut la poser? Madame.
Oui, je suis Rosette Bati de la radio-télévision Mungano Beni. La question s'adresse à Madame Geneviève. Concrètement sur place, la MONUSCO a pris quelles dispositions pour les victimes civiles et surtout les femmes et enfants?
Madame est de l'équipe pays, pas de la MONUSCO, mais la question reste posée. Oui, Béni, mon général, pour la première question.
Peut-être donner la parole à Geneviève, parce que tant qu'elle est à l'antenne encore, si vous voulez bien.
Merci pour cette galanterie. Donc, Geneviève, vous avez la parole.
Merci, Général, j'apprécie. Alors, concernant l'Est du pays, ce sont des questions importantes. Il y a un très grand programme financé par le Canada qui vise à lutter contre l'impunité, à lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes et à réintégrer toutes les victimes de violences, donc à les réintégrer non seulement dans leur milieu familial, communautaire, mais aussi de façon socio-économique. Ce grand programme de 18 millions de dollars canadiens sur 5 ans couvre l'Est et Kinshasa et le Bandundu, la province du Kinshasa et celle du Bandundu. Donc ça, c'est pour répondre à votre question, qu'est-ce que fait, que font les Nations Unies pour ce programme? Dans ce programme, il y a le PNUD, il y a l'UNESCO, le FNUAP, il y a les deux ministères du genre, famille, enfants, justice et droits humains, en même temps que le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc c'est un très très grand programme qui a une approche holistique, parce que comme le disait le général, sur le plan civil, il est important aussi d'avoir des approches holistiques qui prennent non seulement en compte l'aspect médical, socio-économique, psychologique, donc aider les victimes à se relever de ce traumatisme immense qu'est une violence de toute nature, mais en particulier une violence sexuelle. Donc il y a tout cet aspect holistique qui fait qu'on aide les victimes à se relever et à essayer de retrouver une place au sein de la société, donc dans les régions que j'ai citées, à l'est du pays, mais aussi dans le Bandundu et à Kinshasa. Parallèlement, il y a aussi des programmes concernant la justice, formation de policiers, de magistrats, formation de police de proximité, comme j'ai parlé, aussi des programmes de microfinance, d'accès au crédit pour les femmes, pour qu'elles puissent créer des activités génératrices de revenus. Donc vous comprenez bien que l'ensemble de la problématique est vue de façon la plus globale possible. C'est ça que ça veut dire holistique, la plus globale possible, pour que tous les aspects de la question soient pris en compte le mieux possible.
Merci Geneviève. Retour donc à Béni pour reprendre le général Bayou pour cette dernière question de Béni. Oui, mon général.
Oui, donc, comme j'ai dit, les opérations vont durer, mais il est très important que la réponse à ces attaques se fasse le plus rapidement possible et d'une manière la plus forte possible. Ne pas laisser l'initiative, effectivement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de populations qui actuellement sont inquiètes du risque, effectivement, d'autres attaques. Donc, j'ai entendu les populations d'Irengeti demander, effectivement, des actions offensives, parce qu'eux-mêmes ont été attaqués. Donc, ce sont des choses que l'on comprend bien. Et comme l'a exprimé aussi Félix Bass, le porte-parole, il n'y a pas d'autre solution en l'absence de capacité de négocier que, malgré tout, la pression militaire, l'action militaire et la neutralisation, effectivement, d'un certain nombre de ces combattants dans leur base. C'est pour ça qu'il va falloir aller les chercher, effectivement, là où ils sont. Vous avez eu raison dans votre question de parler de la brigade d'intervention. C'est l'ensemble de la MONUSCO qui est en appui, effectivement, de la neutralisation des groupes armés et qui a un mandat de protection des civils, qui n'est pas une tâche pure, uniquement militaire. Mais la brigade d'intervention a un rôle particulier, a un rôle de combat, effectivement, auprès des FRDC, et je pense que ce que l'on a vu dimanche à Eringeti rappelle ce que l'on faisait en 2013 au nord de Goma, puis un peu plus tard dans le Rutshuru, à Kiwanja et ailleurs, et à Shansu, avec les FRDC, c'est-à-dire une action conjointe, offensive, qui est rendue nécessaire lorsqu'il faut vraiment neutraliser ces groupes.
Merci donc. Nous allons à Goma tout de suite pour prendre deux questions. Goma, très rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps.
Allez-y.
Encore la fin. Trop la fin.
Oui, merci, Gina Mauvais pour le compte de Citizen.
Un peu de silence, un peu de silence, s'il vous plaît.
Monsieur Basque, j'aimerais savoir quelle est la réaction de la MONUSCO.
Un peu de silence, s'il vous plaît. Oui, répétez votre question, madame.
Oui, j'aimerais savoir quelle est la réaction de la MONUSCO par rapport à l'ultimatum lancé par François Mwamba, qui est le coordonnateur du mécanisme national du suivi de l'accord d'Addis Abeba. Ultimatum lancé selon lequel il n'y aura pas de prolongation pour les ex-rebelles du mouvement du 23 mars, qui sont tous tenus de se trouver sur le sol congolais au plus tard le 15 décembre.
C'est vite pour déjà. Oui, donc merci pour cette question. Je pense qu'il faudra inscrire la déclaration de Monsieur Mwamba, que je n'interpréterai pas ici, dans le cadre tout simplement de l'accélération d'un processus qui a été initié, comme vous le savez, depuis un certain temps, suite à la signature de l'accord cadre. Maintenant, la réaction de la MONUSCO, c'est vrai que la MONUSCO, au titre des Nations Unies, fait partie des institutions, des organisations garantes de l'accord cadre de Addis Abeba, et je pense que M. François Mwamba est le coordonnateur du mécanisme de suivi de cet accord, et que justement, dans le cadre de ce processus de rapatriement des ex-rebelles du M23, plusieurs réunions ont eu lieu récemment à Luanda, mais encore beaucoup plus récemment ici à Kinshasa, la réunion des ministres de la Défense qui s'est tenue ici, et suite à laquelle des conclusions dont vous venez de faire mention ont été prises, notamment le rapatriement des éléments du M23 du 1er au 15 décembre, ce qui constitue une dernière chance qui a été donnée à ces ex-rebelles pour engager le processus de rapatriement. Mais ce qu'on peut vous dire au niveau de la MONUSCO non seulement fait partie de l'équipe de planification, mais fait partie aussi des acteurs à ce processus-là, notamment en apportant toute l'aide logistique dont nous avons besoin. Présentement, nous avons déjà des équipes, la section DD3R, déjà déployée en Ouganda, qui prend part aux réunions et aux différents préparatifs liés à ce rapatriement. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra que les éléments de l'ex-mouvement du M23 comprennent qu'il est temps que tout le monde se mette au travail pour que la paix puisse revenir dans la région des Grands Lacs. Et Monsieur Saïd Djinit, qui est l'envoyé spécial du représentant du secrétaire général des Nations Unies, est d'ailleurs attendu aujourd'hui à Kinshasa pour poursuivre le travail qu'il a entamé depuis très longtemps. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Nous invitons les ex-éléments du M23 à s'engager dans le processus de retour vers leur pays, parce qu'ils sont pas ougandais, ils sont congolais. Et je pense que le cadre a déjà été décrit, il a déjà été mis en place pour permettre leur retour et éventuellement leur réinsertion pour ceux qui ont déjà fait, qui ont bénéficié de la loi d'amnistie qui a été prononcée par le gouvernement congolais. Donc merci, nous restons à Goma pour prendre une deuxième question, s'il vous plaît.
Ma question s'adresse au général Bayo. D'après votre explication, vous dites que les ADEF ne communiquent pas, non plus ne parlent pas. Pour étant que la MONUSCO, que proposeriez-vous à l'État congolais en fait de mettre fin à ces groupes rebelles, ADEF, FDLR, car à mon avis, on ne négocie jamais avec des forces négatives.
Merci, mon général, vous êtes interpellé. Oui, général Bayo. Excusez-moi, mais un peu de silence à Goma. Il y a trop de bruit à Goma. S'il vous plaît, mon général, vous avez compris la question.
Non. Non, il y avait beaucoup de bruit. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'elle peut être résumée, s'il vous plaît?
Oui, pouvez-vous très rapidement résumer ce que vous venez de dire?
Femile Matika de la RTNC Goma. Ma question s'adresse au général Bayo. D'après votre explication, vous dites que les ADEF ne communiquent pas, ne parlent pas non plus. Vous étant que la MONUSCO, que proposerez-vous à l'État congolais en fait de mettre fin à ces groupes rebelles ADEF, FDLR, car, à mon avis, on ne négocie jamais avec les forces négatives.
Merci.
J'ai parlé.
Bon, alors, voilà, la question n'est pas, comme vous comprenez, c'est pas une question militaire. Je peux juste donner mon avis, hein, presque personnel, par rapport à votre question. Je soulignais le caractère particulier d'ADF qui n'a pas d'interlocuteur politique, qui n'a pas de porte-parole, qui n'a pas, à ma connaissance, hein, de gens avec qui on communique, hein, même leurs chefs qui sont en prison. À ma connaissance, ne parle pas. Donc, c'est pas facile d'engager toute forme de communication avec eux. Maintenant, si on observe ce qui se passe, pas spécialement au Congo, mais partout dans le monde, malgré le caractère odieux de certains nombres de groupes armés, il y a toujours des formes de communication. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher de communication avec les autres groupes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la réalité aussi du processus de désarmement des groupes, si on ne veut pas parler uniquement de neutralisation, n'est pas un processus seulement militaire, n'est pas un processus d'élimination physique. Le but, c'est de ne pas tuer tous les gens. Le but, c'est malgré tout de permettre effectivement que ces gens-là désarment, qu'ils soient traduits en justice lorsque c'est nécessaire et qu'on les réinsère lorsque c'est possible dans leur société. Je tiens à dire malgré tout que même chez ADF, dont on souligne effectivement le caractère criminel, il y a des Congolais, il y a des gens qui ont des familles ici, il faut pas l'ignorer, et je peux vous dire que alors que eux n'ont aucune règle et s'en prennent toujours aux plus faibles et ne respectent bien sûr pas le droit international, que ce soit les FRDC ou nous-mêmes, nous prenons toujours en compte le fait qu'ils opèrent parfois au milieu des civils, et ça oblige à respecter un certain nombre de règles. que notre comportement vis-à-vis d'eux doit respecter le droit et que l'usage de la force aussi doit tenir compte du fait que à certains moments, nous savons qu'il y a eu des otages, qu'il y a eu des civils, etc. Donc, on doit tenir compte de ces choses-là. Voilà ma réponse à votre question.
Merci, mon général. Donc, revenons ici à Kinshasa pour prendre les deux dernières questions. J'interpelle au passage les collègues de Goma que cette conférence de presse, lorsqu'elle est conduite dans la discipline, permet à tout le monde de s'exprimer sans bruit. Donc, deux questions ici à Goma. Donc, Symphorien, oui, vous prenez le micro.
Merci pour la parole. Symphorien Katumba. L'explorateur, j'ai une préoccupation, monsieur le directeur Félix Basse. Le dialogue vient d'être convoqué, mais un blocage plane à l'horizon, car le politicien ne parle pas d'un seul langage concernant ces grands processus de ce dialogue. La MONUSCO joue quel rôle pour décompter en sorte que le blocage ne puisse pas perpétuer? Je vous remercie.
Oui, merci. Donc, je vous dis tout de suite que je l'ai répété à suffisance sur ce plateau. Le dialogue qui a été convoqué est un dialogue national qui concerne les Congolais qui sont invités à y prendre part pour trouver des solutions congolaises aux problèmes congolais. Ça, c'est la première précision qu'il faudra faire. La deuxième, c'est que nous avons aussi toujours dit que la MONUSCO, les Nations Unies de manière très générale, mais aussi d'autres partenaires de la RDC, d'autres amis de la RDC, étaient prêts à accompagner le processus, à accompagner toutes les décisions qui seront prises par les parties prenantes, mais par les Congolais surtout, dans le cadre des élections futur à organiser dans ce pays. Au niveau de la MONUSCO, notre position a toujours été très claire. Non seulement la résolution 2211, mais aussi la 2098 nous demandait toujours de pouvoir offrir nos bons offices si toutefois les parties à ce dialogue en faisaient la demande. Et je pense aussi que c'est aujourd'hui un secret de polichinelle de dire que requête officielle en provenance de la République démocratique du Congo adressée au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon pour la nomination éventuellement d'un facilitateur a déjà été évoquée aussi bien dans la presse que partout. Donc je pense tout simplement qu'au niveau de la MONUSCO, nous appelons à un dialogue inclusif qui permette aux Congolais de mettre sur la table leurs divergences, de discuter et de n'avoir à l'esprit qu'une seule chose, l'intérêt du peuple congolais. Donc nous nous tenons prêts, nous suivons de très près ces développements-là et nous nous tenons prêts à apporter notre concours, que ce soit par les Nations Unies, que ce soit au niveau de la MONUSCO qui joue un rôle beaucoup plus local en RDC, nous nous tenons prêts à accompagner les décisions que les Congolais auront prises. Mais la MONUSCO n'a pas de décision à prendre dans ce cadre-là, c'est un dialogue national. Oui, donc nous prenons une deuxième question ici à Kinshasa.
Alain Mouzi pour la radio ICC à Sylvestre. La prison centrale de Rutshuru connaît une pénurie en nourriture et en médicaments avec des risques d'évasion et des morts. Est-ce que les humanitaires y pensent pour comment remédier à cette situation? Merci.
La question de prison n'est pas essentiellement et avant tout une question humanitaire. Les prisons sont sous la gestion du gouvernement. Il appartient au gouvernement d'y apporter des solutions. C'est vrai que les partenaires humanitaires ont eu à des occasions à intervenir dans les prisons, dans des cas qui vous avaient été racontés ici où il y a eu par exemple des épidémies dans certaines prisons, mais ça c'est des cas exceptionnels. La question de prison relève d'abord du gouvernement, mais les partenaires aussi bien humanitaires que de développement ont eu à plus d'une occasion à appuyer l'action du gouvernement pour le bien-être des prisonniers, la sécurité des prisons.
Merci donc. Ainsi prend fin notre conférence de presse d'aujourd'hui. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à ceux qui ont bien voulu faire le déplacement. Bonne semaine et à mercredi prochain.